Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je m'attaque à un gros morceau. Tellement gros qu'il me faudra deux épisodes pour vous raconter cette histoire, et même trois. L'affaire Émile Louis, l'un des plus grands tueurs en série français. Il a tué au moins sept jeunes filles handicapées mentales, celles qu'on avait appelées à l'époque avant sa condamnation, les disparues de Lyon. Voici donc le premier épisode, vous trouverez ensuite le second, et dans un troisième temps, le troisième épisode, qui sera un point de vue décalé sur ce drame, celui de sa fille Marilyn, qui raconte ce que c'était que d'être la fille d'Émile Louis. Voici donc le premier épisode que nous débrieferons avec quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans ce dossier, l'avocate Corinne Herman. J'écris ce premier épisode avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous préviens, le début de cette histoire est désolant. Et plus de 40 ans après, ça reste une tache dans notre histoire. Une grosse tache bien dégueulasse. Un moment de honte nationale. À la fin des années 70, entre 1977 et 1979 précisément, des gens, des branleurs, des gens foutres, des gros nazes, responsables d'un institut médico-éducatif d'Auxerre, voient disparaître une par une des jeunes filles handicapées mentales dont ils ont la charge. Eh bien, ils ne bougent pas le petit doigt. Des gamines dont pourtant ils sont censés s'occuper, qu'ils sont censés protéger. Hé, Robert, il y a la petite Marlowe qui s'est pas présentée aujourd'hui. Ah bon? Ah ben écoute, t'as qu'à écrire qu'elle est en fugue sur sa fiche, puis voilà tout. Salut. Dis, on a pas de nouvelles, la petite Chantal Gras, là. Ah bon? Bah t'as qu'à écrire sur sa fiche qu'elle est en fugue. Et puis voilà tout. Salut, chef. Dis donc, il y a Madeleine de Juste qui s'est pas présentée ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Bah, t'as qu'à écrire sur sa fiche qu'elle est en fugue. Et puis voilà tout. Et voilà. Fermez le banc. C'était des gogoles, ces gamines, et qui plus est des enfants de la DAS. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à se demander ce qu'elles sont devenues? Elles ont fugué. Voilà tout. Fugué? Vous êtes sûr? À ce stade de l'histoire, on compte quatre disparus. Christine Marlowe avait 15 ans, Chantal Gras 18, Madeleine de Juste avait 21 ans et Bernadette Lemoine 19. Toutes les quatre ont le même profil. Elles sont handicapées mentales. Elles ont été abandonnées par leur famille ou retirées à leur famille par un juge pour enfants. Elles étaient toutes hébergées en famille d'accueil et elles passaient toute leur journée à l'IME avant de rentrer le soir à la maison. On venait les chercher en quart et on les ramenait en quart tous les jours. Et elles auraient fugué? Pourquoi? Comment? Fugué où? Personne ne se pose la question, personne ne les cherche. Ni la direction de l'Institut médico-éducatif Gratterie d'Auxerre, ni les services de la DAS de Lyon. Les seuls qui s'inquiètent de leur disparition, ce sont les familles d'accueil. L'une d'elles publie même un avis de recherche dans le journal local, Lyon Républicaine. Si quelqu'un la retient, il est prié de lui laisser écrire une lettre de sa propre main pour que l'on sache qu'elle est toujours en vie. L'appel reste sans réponse. Et les années passent. En 1984, 7 ans plus tard, le procureur ordonne bien une enquête préliminaire qu'il confie aux gendarmes. Et les gendarmes concluent dans un rapport que oui, ces soi-disant fugues ont un point commun. Ces gamines ont disparu entre le centre et leur famille d'accueil. Toutes. Les gendarmes écrivent qu'il y a sans doute quelque chose à gratter de ce côté-là, dans ce trajet entre le domicile et l'institut. Mais le procureur, un jean-foutre lui aussi, classe le dossier sans suite. Circulez, il n'y a rien à voir. Ce sont des gogoles, je vous dis. Des gogoles. Et les années passent encore. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Christine, Chantal, Bernadette et Madeleine sont tombées dans l'oubli. Personne ne se souvient d'elles. ni d'ailleurs de leur nom, ni de leur prénom, ni de la date à laquelle elles ont disparu. Et ça dure comme ça jusqu'en 1994. Seize ans après, enfin, un homme sauve l'honneur. Il était temps. Il s'appelle Pierre Monnoir. Il n'a aucun rapport avec les gamines disparues, aucun. Il a juste un frère handicapé, ce qui lui donne une sensibilité sur le sujet. Et il a entendu parler de ces gamines handicapées mentales volatilisées. Mais à part ça, il ne sait rien, ni leur nom, ni quand elles ont disparu. Alors il va voir le directeur de l'IME, l'Institut médico-éducatif en question. Pas le même Jean Foudre qu'à l'époque, hein, un nouveau, qui manifestement n'est au courant de rien. Vous n'avez pas entendu parler de ces personnes disparues? Ben non. Ça date de quand? J'en sais rien. D'après ce que j'ai entendu, ça date des années 70, la fin des années 70. Ben non. Honnêtement, je suis pas au courant. Vous devriez fouiller dans les archives. Il y a un truc pas net sur ces disparitions. Et le directeur fouille dans ses archives. Et il tombe de sa chaise.
Monsieur Monnoir, c'est le directeur de l'IME Gratry, là, à l'appareil. Dites-moi, je me suis plongé dans les archives, comme je vous l'avais promis. Vous aviez raison, hein. Il y a effectivement eu quatre disparitions coup sur coup en 1977 qui sont demeurées inexpliquées. Hein.
Ah, je savais bien. Vous pouvez me donner des noms et les dates?
Pas de soucis, monsieur Monnoir. Je vous envoie ça tout de suite.
En attendant, Pierre Monnoir a créé une association de défense des handicapés de Lyon. Et dès qu'il reçoit les noms, il se lance, avec d'autres, dans un travail de fourmi. Il s'agit de retrouver les familles des disparus. Les parents, quand elles en avaient, ou alors un frère, une sœur, souvent placés aussi à la DAS. Moi, j'ai jamais su qu'elle était placée, ma sœur. Je savais pas non plus qu'elle avait disparu. Comment que vous voulez que je le sache? Et comme ça, petit à petit, Pierre Monnoir parvient à mobiliser les quatre familles des quatre jeunes filles disparues fin 77. Il s'agit de porter plainte en tant que partie civile. Et Monnoir a trouvé un avocat, vieux briscard du barreau de Paris, qui carbure au whisky dès le petit déjeuner, mais qui est un retors comme il faut, Maître Gonzalez de Gaspard.
« Je veux bien vous aider, mais c'est pas gagné, hein, je préfère vous le dire. » Tant d'années après, il va falloir se battre pour obtenir l'ouverture d'une instruction.
Il a raison, Gonzalez de Gaspard. C'est pas joué. Alors pour secouer la justice, Monnoir décide de se tourner vers la presse. Mais les journalistes locaux de Lyon ne croient pas vraiment à son histoire. Qu'importe. Début 1995, il va voir l'équipe de l'émission « Perdu de vue » de Jacques Pradel sur TF1. Et il tombe sur un putain de journaliste à qui cette histoire doit beaucoup. Stéphane Minca.
Écoutez, monsieur Monnoir, je vous promets d'aller voir sur place, hein, de mener une enquête. Et je vous tiens au courant.
Et il va sur place, à Auxerre. Et il découvre d'abord que ces gamines qui avaient 15, 18, 19 et 21 ans était bien incapable de fuguer.
Elle avait 7 ans d'âge mental, Christine. Comment voulez-vous qu'elle ait fugué? Elle aurait même pas eu l'idée, enfin, 7 ans d'âge mental.
Et les autres, pareil. Et il retrouve aussi la sœur de Madeleine de Juste, disparue en 1977, à l'âge de 21 ans.
Oh, ben, j'ai passé des annonces en journal, à l'époque, pour savoir où c'est qu'elle était passée, Madeleine. La DAS, on m'a dit qu'elle était majeure et qu'elle avait le droit de partir où qu'elle voulait. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'elle avait été enlevée, quoi, hein. Qu'elle était prisonnière quelque part.
Et Stéphane Minca s'entend dire aussi que la dernière fois qu'on a vu Madeleine vivante, elle allait prendre le car pour aller à l'IME. Le car. Souvenez-vous de ça. Le journaliste de Perdu de vue rencontre aussi la nourrice de Chantal Gras.
Oh, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, que le soir où elle a disparu, elle venait de rentrer à la maison. Elle a posé son cartable, je me souviens. Et puis, elle est ressortie, se promenait, comme elle faisait souvent. Et, ben, ce jour-là, je l'ai jamais revue.
Et après, Stéphane Manka va voir la mère biologique de la même Chantal Gras.
Oh ben, quand elle a disparu, ça m'a pas trop étonné, parce que, figurez-vous qu'un jour, le chauffeur du car qui les amenait tous les jours à l'IME, il m'a dit, vous verrez un jour votre fille, quand elle aura 18 ans, elle partira. Il m'a dit ça, chauffeur de car. C'est pour ça, j'étais pas trop étonné.
Il vous a dit ça? Mais c'est qui ce chauffeur de car?
Émile. Émile Louis qui s'appelle. Ben, c'est lui qui amène les gosses des familles d'accueil où qu'elles vivent. Jusqu'à leur école, jusqu'à l'IME.
Décidément, il y a un problème avec le car scolaire dans cette affaire. Un problème avec son chauffeur, cet Émile Louis, là. Stéphane Manka appelle alors les gendarmes d'Auxerre.
Dites-moi, je m'intéresse à un certain Émile Louis, qui est un chauffeur de car des Rapides de Bourgogne. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose?
Ah oui. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un gars qui a été condamné pour pédophilie, Émile Louis.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, vous aviez conduit une enquête à la demande du procureur de la République sur les disparus de l'IME d'Auxerre. Dans vos souvenirs, est-ce que le nom d'Émile Louis figurait dans le dossier?
Oula, c'est vieux tout ça. Mais oui, je crois bien.
Ce dossier d'enquête préliminaire, là, vous l'avez toujours?
Ah ben oui, bien sûr.
Vous accepteriez de me le lire?
Maintenant?
Oui, maintenant.
Et le gendarme lit le dossier à Stéphane Manka de perdu de vue, au téléphone, pendant 1h30. Et il tombe de l'arbre, parce que Pierre Monnoir lui avait donné 4 noms de disparus. Mais en vérité, il y en a 7. Le gendarme lui en donne 3 de plus.
Alors, on a aussi Martine Renaud, 16 ans. Qui a disparu à l'époque à peu près dans les mêmes conditions. Et puis Jacqueline Weiss, W-E-I-S, qui avait 18 ans. Et enfin Françoise Lemoine, 27 ans. C'est la sœur d'une autre disparue, Bernadette Lemoine.
Cette gamine handicapée mentale disparue dans les mêmes conditions, dans la même indifférence. Et qui toutes faisaient le trajet domicile-école dans le même car scolaire, conduit par le même chauffeur, Émile Louis. Son nom est dans le dossier depuis le début. Il a fait du bon boulot, Stéphane Manka. Du très bon boulot. Jacques Pradel a maintenant la matière pour ouvrir le dossier des disparus de Lyon dans son émission de TF1.
Un petit peu solennellement ce soir, je voudrais quand même dire à ceux qui nous regardent que nous sommes en mesure, après l'enquête que nous avons menée ici à Perdu de Vue, de confirmer en tout cas la réalité d'un certain nombre de ces disparitions.
Et Pierre Monnoir est là, sur le plateau. Et Pradel égrène le nom des disparus. Et Monnoir découvre en direct qu'il n'y en a pas 4, mais 7. En tout cas, ça y est, l'affaire est sortie de l'oubli, enfin. Presque 20 ans après. On a beaucoup critiqué à l'époque l'émission de Pradel perdue de vue. Mais elle a été très utile dans beaucoup d'enquêtes, dont celle-là. Donc, tout était dans le dossier des gendarmes depuis le début. Dans cette affaire, c'est le procureur qui a merdé, pas les gendarmes. Et il est temps que je vous donne le nom de celui à qui cette affaire doit tout. Le gendarme Jambert, Christian Jambert. C'est lui qui a conduit l'enquête préliminaire de 1984. C'est lui qui, dans son rapport au procureur, a pointé un problème avec le chauffeur de car. C'est lui que le procureur a choisi de ne pas écouter. Dans ce dossier, le gendarme Christian Jambert sauve l'honneur. Et ce qui l'a amené à s'intéresser avec passion à ce dossier, contre les institutions,
C'est un événement qui date de juillet 1981. À cette époque-là, au Rouvray, au sud d'Auxerre, un agriculteur trouve un cadavre dans sa grange sous un tas de fumier. Et il appelle bien sûr les gendarmes. Et Jambert prend le dossier en main. Le corps a les pieds et les poings liés. La bouche est bâillonnée avec un slip. Le corps est probablement là depuis très longtemps. Son état de décomposition empêche toute identification. Le seul indice sont des vêtements féminins qui laissent penser qu'il s'agit d'une femme. Et Jambert apprend peu de temps après qu'une jeune fille de la DAS, Sylviane Lesage, a disparu. Alors il compare le dossier dentaire de cette Sylviane à celui du cadavre. C'est elle, la morte. Et en poussant son enquête, il apprend que la gamine avait comme nourrice une certaine Madame Binoche. Et que cette Madame Binoche a pour compagnon un homme qui s'appelle Émile Louis et qui est chauffeur de car. C'est lui qui, tous les jours de la semaine, conduisait Sylviane à l'IME, l'Institut médico-éducatif où elle était scolarisée. Son nom, le nom d'Émile Louis, était dans le dossier depuis 1981. Mais le gendarme Jambert a fait mieux que ça, à l'époque. Il a fait le lien avec 6 autres disparitions de gamines handicapées, celles dont je vous ai parlé, moins une qu'il ne pouvait pas connaître, puisque la disparition avait été signalée à la police. Et il découvre, en 1981, qu'Émile Louis est le point commun entre toutes ces affaires. Il avait tous les éléments, Jambert, depuis le début. Mieux que ça, dès 1981, Jambert sait qu'Émile Louis est pédophile. Il le sait par un de ses copains, qui est aussi ami avec le chauffeur de car. Ah, il m'a dit lui-même qu'il était attiré par les enfants. Il m'a dit qu'il avait des pulsions, il appelait ça la bestiole. Et je crois bien qu'il a tripoté les deux gamines de la DAS que sa femme héberge. Je lui ai dit, va voir un psychiatre, Émile, il faut y aller, tu peux pas rester comme ça, c'est grave ce que tu fais. Mais bon, il m'a pas écouté, quoi. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, Christian, faut arrêter ça. Le 28 décembre 1981, Jambert place Émile Louis en garde à vue. Dans sa tête, c'est clair. Il veut lui faire avouer les attouchements sur les deux gamines que sa femme héberge. Mais pas que. Il espère aussi le faire craquer dans le dossier du meurtre de Sylviane Lesage. Et pourquoi pas, dans le dossier de la disparition des 6 autres. Bien, monsieur Louis, j'ai des éléments qui me laissent penser que vous avez agressé sexuellement 2 gamines de la DAS qui sont placées chez vous. Est-ce que j'ai tort, monsieur Louis ? Pas tout à fait, non. Ouais, je les ai un peu caressés, quoi. Enfin, touchés, quoi. C'est des pulsions, je peux pas résister. J'ai aussi des éléments, monsieur Louis, qui me laissent penser que vous pourriez être mêlé au meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Sylviane Lesage. Et mieux que ça, monsieur Louis, j'ai des raisons de penser que vous pourriez être aussi impliqué dans la disparition de 6 jeunes handicapés mentaux que vous conduisiez tous les jours il y a quelques années à l'IME d'Auxerre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ?
Rien. J'y suis pour rien, moi, tout ça. Pourquoi j'aurais fait ça ?
Mais vous les connaissiez, ces filles ?
Oui. Je les ai transportés dans mon car. Mais c'est tout.
Il est retors, le mimine. À la fin de sa garde à vue, Émile Louis est mis en examen pour les attouchements et pour le meurtre de Sylviane Lesage. L'année d'après, Émile Louis n'est condamné que pour les attouchements. 4 ans de prison. Il en fera 3. Dans l'affaire Lesage, faute de preuves, il fait l'objet d'un non-lieu. Mais Christian Jambert ne lâche pas. Il veut faire tomber Émile Louis dans le dossier des 6 disparus. Et pour ça, il doit retrouver les cadavres. Alors il fait fouiller les mares, les étangs, les rivières. Rien. Son enquête dure 3 ans. Et en 1984, il rend son fameux rapport de 7 pages au procureur. Tout y est, tout. C'est écrit noir sur blanc, et Émile Louis est présenté en filigrane dans tous ses dossiers. Et à la fin de son rapport, il écrit « Faut-il élargir le périmètre de votre instruction aux autres disparitions ?» Réponse du procureur et du juge d'instruction, sous la forme d'un coup de tampon à poser sur ce rapport. Non ! Les nazes ! Les nazes ! Au moment où le juge donne son coup de tampon, Émile Louis a purgé sa peine pour les attouchements. Et il sort de prison. Et comme pour lui ça sent le roussi, il quitte Lyon et va s'installer au soleil à Draguignan dans le Var, où il récidive dans le tripotage. En novembre 1989, il est condamné à 5 ans de prison pour attentat à la pudeur avec violence sur mineur. Sur les 5, il en fait 3. Et il est libéré en 1992. Et ma foi, il reste au soleil, à Draguignan, Pépouze. Alors que pendant ce temps-là, à Auxerre, Pierre Monnoir, qui ne sait rien de tout ça, tente d'exhumer le dossier des gamines disparues. Pitoyable tout ça. Pitoyable. Et je vous rassure, hein, les 2 zigomars qui ont enterré le dossier, là, le juge et le procureur d'Auxerre, ne seront pas sanctionnés. Dans l'univers de la justice, la règle, c'est l'impunité. C'est pas joli joli, mais c'est comme ça. Et donc, nous voilà en 1996. Et Émile Louis coule une paisible retraite au soleil. Mais il ne perd rien pour attendre. L'avocat González de Gaspar est à la manœuvre. Les 4 familles des disparus viennent de se constituer partie civile. Elles ont porté plainte, mais pas pour meurtre, puisqu'il n'y a pas de cadavre. Porter plainte pour meurtre, ça serait risquer de voir le dossier enterré à nouveau. González de Gaspar, ce vieux renard, a trouvé la parade. Il porte plainte pour enlèvement et séquestration arbitraire, faisant semblant de croire que les gamines seraient encore vivantes. Mais vous n'allez pas le croire. Le juge d'instruction d'Auxerre, qui est désigné pour instruire le dossier, refuse de recevoir les familles. Et pire que ça, 4 mois plus tard, il enterre à nouveau le dossier. Trop ancien. Ah, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Les familles font appel. Et ouf, la justice sauve les meubles, prière de reprendre l'instruction. Ça chauffe pour toi, Mimille. Ça chauffe pour toi. Malheureusement, à ce moment-là, le dossier perd l'un de ses héros. Le gendarme Christian Jambert se suicide avec une 22 long rifle. C'est terrible. Il venait de prendre sa retraite. Il était dépressif. Est-ce que c'est lié à l'affaire? On n'en sait rien. Il est toujours assez vain de donner du sens à un suicide. Certains vont jusqu'à envisager qu'il a été assassiné, parce qu'il en savait trop. Alors on exhume son cadavre. Et effectivement, c'est étrange, à l'autopsie, on découvre qu'il y a 2 impacts de balles dans sa boîte crânienne. On se suicide assez rarement de 2 balles. Mais bon, l'enquête conclut que c'est vraiment un suicide. Et conséquence, ben, on pourra pas compter sur lui pour la suite. Mais là où il est, qu'il se rassure. Grâce à lui, la machine judiciaire est lancée et cette fois, elle ne s'arrêtera pas. Merci, Christian Jambert. Merci. C'est le juge Lewandowski qui est chargé d'instruire le dossier des disparus de Lyon. Tant d'années après, c'est pas gagné. D'abord, il a perdu son témoin clé, Jambert. Et par ailleurs, on a aussi égaré le rapport d'enquête préliminaire de Jambert en 1984. Et donc, il faut tout reprendre à zéro. Il désigne deux gendarmes pour travailler à plein temps sur le dossier.
Tenter de retrouver les filles qui étaient avec les disparus à l'IME en 1979. Elles sauront peut-être quelque chose. Hein.
Sauf qu'elles étaient handicapées mentales et que ça n'a pas changé. Elles sont incapables de répondre aux questions. Les gendarmes explorent ensuite la piste d'un réseau de prostitution. Est-ce que ces filles ne sont pas séquestrées quelque part? À Paris, au Moyen-Orient ou en Amérique latine? Ça ne donne rien. Alors bien sûr, on en revient à Émile Louis. Les gendarmes qui mènent l'enquête 19 ans après se convainquent à leur tour qu'il est le centre de toutes les disparitions. Avec toujours le même problème déjà pointé par Jambert, on n'a pas de cadavre. Et sans cadavre, difficile de l'accuser de meurtre. Alors, on fouille dans la région d'Auxerre, du Rouvray, de Villefargeau. Je pense que vous devriez chercher là où Émile avait ses habitudes. Je sais qu'il allait souvent pêcher au bord du Serein. Et puis il avait son potager aussi. Et je crois bien qu'il avait encore une cabane dans la forêt. On retourne la terre du potager, les abords de la cabane. On fouille la rivière où il pêchait. Rien. Et puis les gendarmes tombent sur un témoin.
Oh, c'était en 1981, je crois bien. J'ai vu de mes yeux. Émile creusait un trou dans un champ. Un trou d'au moins, je sais pas moi, au moins un mètre sur un mètre.
Et vous vous souvenez où?
Oui, pas loin de son potager.
Les gendarmes creusent.
Stop!
Ils viennent de tomber sur deux ossements et des semelles de chaussures. Mais ce sont des os de mouton, choux blancs. Et là, on s'aperçoit que, avant d'être chauffeur de car, Émile Louis était gardien du château de Villefargeau. Alors, là aussi on creuse, de ci, de là, et encore chou blanc. Dans ce dossier, toujours pas de cadavre. Pendant ce temps-là, Émile Louis est toujours au soleil, à Draguignan. Il doit se douter, surtout depuis l'émission Perdue de vue, qu'il est dans le collimateur. Et s'il n'a pas vu l'émission, ce qui est possible, il ne peut pas ignorer que l'enquête a été relancée, parce que les journalistes font le pied de grue désormais toute la journée devant chez lui. Parfois, il les envoie bouler, mais de temps en temps, il les reçoit dans son salon.
Je peux vous offrir un café ?
Et parfois, il leur donne une interview.
Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire aujourd'hui ?
Oui, oui, oui. Les sortes, ça chante sur moi. Et je suis absolument pour rien, j'ai toujours clamé mon innocence. J'avais fait un trou, effectivement, de 50 cm de profondeur sur un mètre, pour repiquer mes endives pour l'hiver. Enfin, pour le printemps, parce qu'on mange les endives. Bon. Et c'est tout. C'est tout. Je ne comprends pas que 20 ans après, qu'on vienne me dire qu'on a trouvé deux os dans ce fameux jardin.
Profite de tes derniers instants de liberté, Mimile. Profites-en bien. Ainsi se termine ce premier épisode, la suite dans le deuxième épisode. Ce premier épisode, nous allons le débriefer maintenant avec un acteur clé de ce dossier, l'avocate Corinne Herman. J'ai dit tout à l'heure, Corinne, que vous aviez eu un rôle clé dans ce dossier. Il faut juste nous expliquer pour qu'on comprenne. À l'époque, vous n'êtes pas avocate, mais vous êtes juriste dans le cabinet de Pierre González de Gaspard. Et c'est vous qui apportez ce dossier au cabinet. Dans quelles circonstances ?
Alors oui, j'apporte ce dossier au cabinet. Je ne suis que juriste et je suis informée par ma sœur de l'émission de Perdu de vue qui recherchait un avocat. Donc je vais me positionner sur la liste de l'émission. Je vais positionner le cabinet sur la liste de l'émission, ce que j'aurais pas dû faire, qui m'a valu quelques remontrances. Mais en tous les cas, on était sur cette liste et on se proposait comme avocat à l'époque, oui.
Et vous n'êtes pas avocate, hein, vous travaillez en deuxième ligne derrière González de Gaspar.
Oui, tout à fait, je suis juriste et en fait, classiquement, dans ce cabinet, il y avait Pierre González de Gaspar qui plaidait, qui faisait le travail de l'avocat et on était plusieurs juristes au cabinet à se partager les dossiers. Et comme j'ai fait rentrer le dossier, naturellement, je vais suivre ce dossier.
Et donc vous, pendant toutes ces années, c'est vous qui, main dans la main avec Pierre Monnoir, vous battez pour sortir cette affaire de l'oubli. Ça veut dire que vous le voyez quoi, Monnoir, tous les jours?
Ah, je crois qu'on s'appelait... pratiquement toutes les heures à l'époque et pendant des années, on s'est appelé. Il n'y avait pas une information qui n'était pas échangée entre lui et moi, et on construisait la stratégie de ce dossier tous les deux, au jour le jour, à l'heure après l'heure, week-end, soirée comprise, parce que c'était un dossier tentaculaire, énorme, où il y avait tout le temps des informations contradictoires et où il fallait combattre cette justice. Ça a été un combat vraiment hors norme qui nous pèse encore aujourd'hui, qui a été vraiment très lourd.
Mais Monnoir, dans ce dossier, on peut dire qu'il en a fait une affaire personnelle, alors qu'en vérité, il n'est pas concerné directement par le dossier. Est-ce que vous aussi, d'une certaine manière, vous diriez aujourd'hui que vous en avez fait une affaire personnelle?
Oui, c'était une affaire personnelle pour nous deux. Je pense pour nos familles aussi qui ont été sacrifiées à cette affaire à l'époque, parce que c'était tellement injuste, il y avait tellement de fausses informations, et il y avait un tel refus de la justice, des enquêteurs, de tout le système qu'on en faisait une affaire personnelle, parce qu'il fallait que ça cède, parce qu'il fallait que ces jeunes filles soient recherchées et rendues à leur famille d'une façon ou d'une autre, en tout cas que la vérité fasse jour. Et nous avions le sentiment de connaître la vérité. Nous avions aussi un sentiment d'urgence parce que nous pensions que c'était un tueur en série, que nous en avions les preuves et que la justice refusait de l'interpeller, le laisser dehors. Donc il était dangereux. Moi, je me vois encore dans le bureau du juge dire qu'il est toujours agissant. Il était toujours dangereux quand on a déposé la plainte et ça s'est avéré exact par la suite. Un tueur en série s'arrête rarement et c'était pour nous une urgence. Donc ça devenait une affaire personnelle et ça devenait l'essentiel de notre vie pour intercepter sa route.
Oui, ça envahit votre vie, un peu,
oui.
Beaucoup.
Oui, totalement.
C'est rare ça, chez un avocat. Enfin, vous n'êtes pas avocate à l'époque, mais c'est quand
non,
même
rare. Non, mais je deviens à cause de lui. Je deviens à cause de lui parce qu'il y a d'autres combats par la suite. Et que je dirais qu'aujourd'hui, on en est toujours au même point avec la justice sur d'autres affaires. Oui, ça devient le combat d'une vie, oui. Et Pierre Monnoir, qui est aujourd'hui le président d'une association de victimes, est toujours sur le pont aussi. Voilà, ça a déterminé les 30 dernières années de notre vie.
Corinne Hermann, si je remets les choses dans l'ordre, c'est bien, donc, vous en avez dit un mot tout à l'heure, l'émission Perdue de vue qui fait déclic. Et je souligne ce point parce que, à cette époque, on disait beaucoup de mal de cette émission, mais pour le coup, elle a été déterminante.
Absolument, elle a été déterminante. Il y a eu 4 épisodes, effectivement, c'est le déclic. Pierre Monnoir avait tenté d'alerter d'autres journalistes et d'autres émissions auparavant. Ça n'avait pas eu l'effet qu'a eu cette émission qui était nationale et qui avait une aura nationale importante, même si elle était décriée par certains. Elle était importante dans ce dossier, elle a été dans d'autres, effectivement.
Et votre chance aussi, c'est de tomber sur Stéphane Munca. Vous auriez pu tomber sur un naze, il y a des nazes parmi toutes les rédactions. Vous auriez pu tomber sur un mauvais journaliste. Vous tombez sur un gars qui ne va pas lâcher.
Eh bien, à partir du moment où Stéphane Munca avait réuni un certain nombre d'éléments qui permettaient l'émission, puisque pour qu'il y ait une émission, il fallait avoir quelques photos, il fallait quand même vérifier la base de ce que disait Pierre Monnoir, l'existence de cette affaire. Donc il avait fait des vérifications basiques qui suffisaient pour l'émission. Ensuite, ça... Je dirais que dès que la première émission a eu lieu, ça s'est suivi de façon naturelle, puisque très exactement, il y a des familles qui se sont manifestées, des frères et sœurs qui se sont manifestés, qui ont appris par l'émission que leur sœur avait disparu. Enfin, pour eux, leur sœur avait refait leur vie et elle ne voulait pas leur donner de réponse. Et c'est par cette émission que plusieurs familles, plusieurs membres de ces familles apprennent que leur sœur a disparu.
Et vous aussi, c'est par cette émission que vous apprenez qu'il n'y a pas 4, mais 7 disparus.
Alors oui, petit à petit, hein, ça se fait petit à petit, puisque l'émission va commencer sur 4 disparus, et ce sont des familles qui vont se manifester, dont par exemple la famille Weiss, qui était en nourrice chez Émile Louis, qui va se manifester. Donc petit à petit, on va compléter le tableau, effectivement.
Le rapport du gendarme Jambert, qui avait donc tout compris dès le début des années 80, vous le découvrez quand ?
Alors, je le découvre avec certitude, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on va douter de l'existence de ce rapport et de cette enquête. On le découvre après les aveux d'Émile Louis, tout de suite après les aveux d'Émile Louis, dans les jours qui suivent.
Mais avant ça, non. C'est-à-dire qu'au moment de l'émission perdue de vue, il le connaît, Stéphane Munca, puisque le gendarme lui a lu ce rapport. Mais physiquement, vous ne l'avez pas.
Non, je ne sais pas, je n'y étais pas. Et je peux vous dire que pendant des années, nous n'avons pas de procès-verbaux de Christian Jambert et nous n'avons pas ce PV de synthèse. Nous l'aurons après, donc nous refaisons tout le travail.
Alors évidemment, il y a quelque chose qui a pu choquer, puisque Jambert arrive à Émile Louis en enquêtant sur la mort de Sylviane Lesage. Il n'a pas été condamné, Émile Louis, dans l'enquête sur la mort de Sylviane Lesage. Vous savez pourquoi ?
Mais je dirais qu'ils n'ont pas réuni les preuves suffisantes pour le mettre en cause à l'époque. Donc ils vont le mettre en cause pour les agressions sexuelles sur des mineurs. Il va être d'ailleurs jugé, incarcéré et condamné pour ces faits. Et il considère à l'époque, en tout cas la justice va considérer, qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour le mettre en cause dans cette affaire. Et il va bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire.
Mais on peut penser raisonnablement que c'était lui aussi déjà.
Alors nous, on pense que c'était lui déjà, on pense que c'est véritablement sa victime, mais surtout, on pense qu'on avait tous les éléments pour le démontrer.
Alors, la mort du gendarme Jambert, suicide, pas suicide, j'ai pas voulu rentrer trop là-dedans, parce que il y a un côté complotiste, je trouve, là-dedans, mais certains ont dit qu'il avait été assassiné, ou au regard des deux balles qu'on a retrouvées après son autopsie dans sa tête. Vous en pensez quoi, vous, Corinne?
C'est ma conviction profonde qu'il a été assassiné. Par qui et pourquoi ? Ça n'est pas forcément lié au disparu de Lyon. Je m'explique, c'est qu'à l'époque, Christian Jambert apparaît devant les médias, mais il avait travaillé sur d'autres affaires qui lui tenaient plus à cœur, où il pouvait peut-être paraître plus dangereux. Le fait qu'il s'exprime devant les médias pouvait le rendre plus dangereux. Moi, je suis sur ce dossier concernant Christian Jambert qui est toujours d'actualité. J'ai vu toutes les autopsies, j'ai fait les demandes, j'ai été aux exhumations, ça fait quand même 25 ans que je fais du médico-légal et je vous dis, on n'est pas encore au bout de ce dossier-là. Et ma conviction personnelle qui n'engage que moi, c'est véritablement, et ça, Safi le sait, c'est véritablement qu'il a été assassiné.
Vous êtes en train de me dire que l'instruction sur la mort de Jambert se poursuit aujourd'hui ?
Alors, l'instruction a été close, mais comme vous le savez, on peut reprendre une instruction. Ça reste notre actualité et on est loin du monde complotiste qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il y a des éléments, je dirais, tangibles, techniques, qui font qu'on va redemander, qu'on aura à redemander des explications sur cette mort.
J'entends bien que c'est vous qui êtes à la manœuvre dans cette affaire.
Oui, enfin avec le cabinet Seban et avec Didier Seban.
Oui, puisque depuis, bon, González de Gaspar est mort, mais avant cela, vous l'avez quitté, vous avez rejoint et vous êtes devenu avocate à ce moment-là, Didier Seban, qui est une star du barreau de Paris. On y reviendra, Corinne Hermann, dans le deuxième épisode, mais les magistrats qui n'ont rien fait pour arriver à la vérité, notamment le procureur, le juge du début, ils font ça par incompétence, par mollesse, ou plus trivialement parce qu'il s'agit de handicapé mental et que ça ne mérite pas de mobiliser leur honorable personne.
J'ai envie de dire le tout. J'ai envie de dire que certains étaient incompétents, d'autres n'avaient pas le temps et s'occupaient d'autres choses, ne s'intéressaient pas à ces jeunes filles. Ils savaient qu'elles ne représentaient pas une nuisance pour eux puisque aucune famille n'allait se manifester puisqu'elles étaient à la DAS. Personne n'allait rien leur demander comme compte. On leur demanderait pas de compte sur ces affaires-là. Donc elles sont passées, je dirais, aux affaires qui partaient à la poubelle quasiment. D'autres n'avaient pas envie, tout simplement. Il y a eu de tout, de l'incompétence, du manque d'intérêt pour ces jeunes filles. Et puis, je pense qu'ils se sont aussi fait leurrer par certains directeurs d'instituts qui connaissaient le monde du handicap et qui leur ont dit n'importe quoi, alors qu'on savait que ces jeunes filles n'avaient pas la maturité mentale pour disparaître et assurer leur vie.
Merci Corinne Hermann d'avoir débriefé ce premier épisode. Demain, deuxième épisode qui va nous amener heureusement jusqu'à la condamnation d'Émile Louis et que nous débrieferons aussi avec vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.